Bonjour, bonsoir, bienvenue dans les Bulles Nomades, le podcast créatif et slow. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui c'est l'heure du bilan d'artiste mensuel où j'ai envie de vous parler de nos besoins d'être humain, nos besoins dans le travail, nos besoins créatifs, toutes ces choses-là. Alors sachez que je me suis installée à nouveau dans le placard à vêtements, où apparemment il y a moins d'écho, ce qui est tout à fait logique, hein. Quand on enregistre un podcast, si on l'enregistre dans un espace clos, le son va être meilleur parce qu'il y aura moins d'écho, etc. Ça c'est la vie du podcast indépendant. Je n'ai pas un studio d'enregistrement, je fais ça dans mon placard à vêtements. Là j'ai pris mon petit thé, c'est un thé japonais qui s'appelle Hojicha, qui est un thé vert grillé, qui est parfait pour la digestion, parce que là je sors de table. Et du coup je me suis dit que j'allais vous parler, pendant que je bois mon petit thé digestif dans mon placard à vêtements en désordre, pour vous parler de mes besoins, parce que justement, ces travaux de salle de bain, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, parce que j'apprends beaucoup de choses sur moi-même et sur la vie et sur l'humanité grâce à ces travaux de salle de bain. Bienvenue dans mon cerveau. Et aujourd'hui, j'ai particulièrement envie de vous parler de la leçon que j'ai apprise et que je suis en train d'apprendre à propos de nos besoins humains, en fait, d'être humain, de l'impact que ça a quand ces besoins ne sont pas remplis sur nous, en fait, sur notre vie, et de l'impact à l'inverse que ça peut avoir quand on comprend mieux les subtilités de nos propres besoins, qu'on trouve des manières pour y répondre, et que ça rend la vie beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable, sans que ce soit, comment vous dire, sans que ce soit des changements d'habitude ou des changements de routine qui soient énormes. C'est-à-dire que c'est pas d'un seul coup on va se lever à 5h du matin, on va faire du sport, on va manger que des légumes. Non, c'est des petits détails qui prennent ni beaucoup de temps ni beaucoup d'énergie, mais qui changent beaucoup de choses. Mais encore faut-il savoir qu'on en a besoin pour commencer. Donc là, je vais vous parler de mon cas personnel, hein, dans ce podcast comme dans à peu près toutes les émissions des Bulles Nomades, hein, c'est vraiment du partage d'expériences personnelles. J'ai remarqué ces dernières années, depuis que je travaille sur moi-même en fait, hein, que j'ai une énorme tendance à complètement ignorer mes propres besoins d'être humain et de professionnel et d'artiste, etc., etc. Dans toutes mes facettes en fait, hein, de ma vie d'être humain. Et ces temps-ci, je déconstruis pas mal les constructions sociales autour de notre valeur d'être humain et le lien avec la productivité, qui est un très très vaste thème qu'on abordera sûrement à nouveau à l'avenir sous différents angles. Et aujourd'hui, l'aspect que j'ai découvert, c'est que j'ai été entraînée à me traiter moi-même comme un objet, comme une machine, comme un outil de productivité dont j'attends une rentabilité constante et qui n'est pas censé avoir de besoins organiques. Je schématise un peu, je grossis le trait quand je vous dis ça. Mais c'est un peu ça l'idée sous-jacente derrière le fait de réprimer ses propres besoins en fait et de ne pas se connaître, de ne pas connaître ses propres besoins d'être organique. Vous voyez, par exemple, attendre de moi-même de travailler de 9h à 18h, de ne pas avoir faim avant la pause midi, de ne pas être fatiguée en fin de journée, de ne pas laisser mes émotions entamer mon rendement. Et vu qu'en ce moment, mes travaux se passent très mal et que mes émotions sont compliquées, autant vous dire que mes émotions entament mon rendement très très sérieusement. Et en fait, ça, c'est un sujet que je déconstruis en tant qu'indépendante déjà depuis des années, parce que je me suis rendu compte à l'époque où je me suis mise à mon compte. Donc, je suis à mon compte depuis début 2017, non, fin 2016. Je suis à mon compte depuis fin 2016. Et je me suis rendu compte que je me traitais moi-même de manière encore plus dure que n'importe quel employeur que j'avais eu jusque-là m'avait traité. C'est-à-dire de tolérer aucune fatigue, aucune baisse de rentabilité, sans jamais prendre de pause, sans jamais tolérer la moindre défaillance, ce qui est quand même complètement hallucinogène quand on pense que je me suis mise à mon compte précisément pour avoir de meilleures conditions de travail, pour être traitée avec respect, pour avoir la liberté de gérer mon temps comme je le souhaite en tant qu'adulte. Donc quand j'ai pris conscience de ça petit à petit dans ma vie d'indépendante, et je pense que je ne suis pas la seule indépendante à prendre conscience de ça quand on quitte la vie salariée et qu'on organise notre temps nous-mêmes et qu'on se rend compte de toutes les injonctions de productivité qui nous empêchent de gérer notre temps comme on veut en fait. Mais c'est une question qui... Voilà, même si ce côté-là, c'est des choses sur lesquelles j'ai déjà travaillé par le passé, c'est une question qui revient en ce moment. Et en ce moment, c'est à mon processus créatif que je réfléchis pas mal, c'est-à-dire quels sont les ingrédients dont j'ai besoin pour commencer à écrire une histoire, à quel moment de la journée je suis la plus créative, pareil, à quel moment de la semaine ou du mois je suis la plus créative, est-ce que je suis vraiment capable de créer tous les jours, 31 jours par mois, ou est-ce qu'il y a des cycles aussi par rapport à tout ça? Et aussi les détails de à quel moment je suis plus à même d'écrire, à quel moment je suis plus à même de peindre, à quel moment je suis plus à même à composer de la poésie. Voilà, je suis vraiment en train d'explorer tout ça en ce moment en tant qu'artiste. Et en fait, ce sont des questions que j'explore parce que je suis en train de monter une maison d'édition, ce qui ajoute à la fois du travail supplémentaire dans mes journées déjà chargées, ça ajoute aussi des dates limites de plus pour mes créations. Là où avant je créais un peu comme je voulais, quand je voulais, là va y avoir des dates limites par rapport à des collections qui vont sortir, etc. Donc forcément, ça remet à plat un certain nombre d'habitudes et de schémas de fonctionnement en tant que professionnel, dans ma vie professionnelle. Et puis en plus de tout ça, le perturbateur personnel qui est venu s'ajouter à tout ça, c'est ma fameuse salle de bain qui est en travaux, avec un chantier qui a énormément de retard. C'est-à-dire que là, ce podcast sort fin février, je l'enregistre, on est le 16. J'en suis toujours pas sortie, et je suis pas prête d'en être sortie, alors que ça devait se terminer fin janvier. On adore. Et ce problème-là, par rapport à ce chantier de salle de bain, a fait ressortir un apprentissage hyper important à propos de mes besoins. C'est-à-dire que quand on refait une salle de bain, on a d'un coup des besoins très basiques, qu'on prend pour acquis, parce qu'on les a remplis toute notre vie, qui ne sont plus aussi aisés à combler. Par exemple, le besoin d'hygiène, d'avoir un corps propre et des vêtements propres. Rien que ça. Et j'ai pris conscience en fait de l'impact direct que ça a sur moi en tant qu'être humain, d'avoir des besoins aussi fondamentaux qui deviennent beaucoup plus difficiles à combler qu'avant. Et je me rends compte depuis... Ben, c'est un chantier qui dure depuis début janvier, donc ça fait 2 mois que je me rends compte. 1 mois. Je me suis déjà projetée dans le 2 mois. Donc ça fait plus d'un mois que je me rends compte du déséquilibre émotionnel et du stress que ça génère. Du coup, j'ai commencé à prendre conscience de ces besoins-là. Des besoins très très basiques comme le besoin d'hygiène. C'est-à-dire que j'ai commencé à me demander mais pourquoi je me sens aussi stressée? Pourquoi je me sens aussi désorientée? Parce que du coup, pour tenir tout le long des travaux, pour prendre soin de moi dans ce processus, pour continuer à apprécier mon quotidien au lieu d'être en train d'attendre une fin de travaux qui n'arrive jamais, il devenait urgent de trouver des alternatives, de trouver des moyens temporaires de remplir ces besoins si fondamentaux qui m'empêchent de fonctionner correctement si je ne prends pas soin de les remplir d'une manière ou d'une autre. Mais pour répondre à mes besoins d'être humain, encore faut-il en avoir conscience. D'avoir conscience que j'ai un besoin et d'être capable de discerner de quel besoin il s'agit. Et c'est là qu'intervient ma grande leçon de ce mois-ci, c'est-à-dire que comprendre et résoudre le besoin d'hygiène, franchement, c'est pas sorcier. Hein. Il faut des gants de toilette propres, avec l'évier de la cuisine et de l'eau chaude, hein. Il faut un passage à la piscine ou dans la douche de proches compatissants de temps en temps, un petit rituel de crème hydratante avant d'aller au lit, et je peux tenir plusieurs semaines sans douche, y a pas de problème. C'est pas là qu'il y a l'apprentissage. Là où il y a l'apprentissage, c'est que ça m'a donné, en fait ça m'a obligée à interroger mes besoins, à me demander « Ok, là c'est une disruption de mon quotidien, je me sens vraiment pas bien, pourquoi ?» Et en m'interrogeant là-dessus, j'ai soulevé un tapis sous lequel j'avais mis beaucoup de poussière, donc beaucoup de besoins refoulés quelque part, depuis de nombreuses années. J'ai pris conscience que des besoins non remplis ou mal remplis dans mon quotidien, j'en ai plein. Et pas seulement dans ma vie domestique ou personnelle par rapport aux travaux de salle de bain, mais en tant qu'être biologique, dans mon rapport à mon corps, dans mon rapport à mes rythmes, à ma créativité, à mon énergie, à ma soi-disant productivité qui est érigée en priorité absolue dans la société actuelle. Mais comment est-ce que je peux attendre de prendre soin de moi-même et par extension des autres une fois que ma propre vie intérieure est équilibrée si je n'ai même pas conscience de ce dont j'ai besoin en tant qu'être humain? Et au-delà de ça, comment est-ce que c'est même possible de ne pas connaître mes propres besoins à presque 36 ans? Alors avant d'avancer dans la théorie de tout ça, je vais vous donner quelques exemples. Ce sera peut-être un petit peu plus simple. Par exemple, Lorsque j'ai cherché des solutions pour pallier le manque de douche, je suis initialement partie sur un besoin d'hygiène basique. Hein, donc comment est-ce que je me lave le corps, comment est-ce que je lave mes vêtements? Ce qui était vraiment le plus immédiat. Mais j'ai vite pris conscience que le besoin d'hygiène n'était pas le seul besoin contrarié. C'est-à-dire que, comme ce que je vous disais, hein, trouver une solution à ça, c'est assez rapide, mais je continuais quand même à me sentir mal. Je me suis rendu compte que derrière tout ça, il y avait aussi un besoin d'intimité, un besoin de confort, un besoin d'entrer en lien avec mon corps, de toucher, de la sensualité, de l'eau chaude ou de l'odeur des produits cosmétiques, ce genre de choses. C'est comme si je découvrais en fait des subtilités derrière ce besoin d'hygiène, des besoins qui sont peut-être moins vitaux et moins immédiats que celui d'être propre, mais qui sont des besoins humains tout de même, et qui agissent sur mes émotions, qui agissent sur ma stabilité mentale, qui agissent sur mon bien-être de personne humaine, organique, qui n'est pas une machine. Alors, pour la question de la douche et des besoins subtils qu'il y a autour de tout ça, j'ai fini par trouver des solutions hein, en un mois, comme par exemple me passer un gant propre et très chaud sur le visage, ce qui me permet de retrouver en partie le plaisir sensuel de l'eau chaude qu'on a quand on se douche. Je me suis aussi créé un petit rituel de soin de moi avant de me coucher, où je me passe de l'eau parfumée sur le visage, je me mets de l'huile hydratante sur la peau, je m'hydrate les jambes, je me passe un parfum Roll-On sur les poignets qui a une magnifique odeur de cyprès, la Hinoki. C'est le parfum Roll-On Hinoki de chez L.A. Brouquette, si ça vous intéresse. Ce truc sent super bon et ça rend mes soirées tellement plus agréables que vous vous doutez bien que c'est un rituel que je vais garder même quand j'aurai à nouveau ma douche hein. Et tout ce petit rituel là et le gant chaud sur le visage etc, ça me permet non seulement d'être propre et de prendre soin de mon corps d'un point de vue hygiène basique, mais ça me permet aussi de me sentir connectée à mon corps, de me détendre et de me sentir sereine avant d'aller au lit en fait, tout simplement. Donc déjà un premier apprentissage à ce stade, avant de passer aux autres besoins que je suis allée chercher ce mois-ci, qui est cette subtilité personnelle de nos besoins humains. Donc nos besoins humains sont évidemment en partie universels, on a tous besoin d'être propres. Mais en réalité, ce que je suis en train de comprendre en ce moment, c'est qu'ils sont plus subtils et plus complexes que ça quand on creuse un petit peu. Et c'est dans cette complexité que se trouvent nos singularités personnelles. Par rapport à notre personnalité, à notre passé, à nos préférences, etc., on ne va pas ressentir des besoins humains universels de la même manière que d'autres personnes. Certaines personnes vont être plus ou moins affectées par tel ou tel besoin, plus ou moins bien rempli. Moi qui ai un besoin de calme, de beauté, d'esthétique, en ce moment, avoir des travaux chez moi, ça me pèse énormément. Alors je suppose que ça pèse n'importe qui d'avoir des travaux chez soi, peut-être qu'il y a des personnes qui sont moins sensibles aux besoins de calme et de beauté et qui du coup sont moins perturbées que je ne le suis quand ils ont des travaux chez eux, voyez ce que je veux dire. Et en ce qui me concerne, je me rends compte que je suis très peu consciente des subtilités de mes besoins personnels. Je connais mal mes besoins. Je me connais mal en tant qu'être organique. Et en apprenant à connaître ces subtilités dans le domaine de l'hygiène, ce que j'ai été obligée de faire à cause des travaux de salle de bain qui se sont prolongés au-delà de ce qui était prévu, j'ai aussi pris conscience d'autre chose, qui est qu'une fois que je me connais mieux, ça devient beaucoup plus facile de trouver des solutions adaptées à moi pour répondre à mes besoins. Et ça, c'est le deuxième apprentissage de ce mois-ci. Je me suis rendu compte qu'il suffisait de quelques détails qui prennent peu de temps et d'énergie pour que d'un coup, je me sente beaucoup mieux. Parce que ça répond à une subtilité de besoin que j'ai identifiée. Par exemple, j'ai pas besoin de me payer un week-end à 1000 euros dans un spa avec bain à bulles et jacuzzi et compagnie pour répondre à mon besoin d'hygiène et de plaisir sous la douche. Même si j'ai très très envie de me payer un week-end spa en ce moment, c'est pas nécessaire. J'ai acheté quelques paires de gants chez Monoprix pour en avoir un propre tous les soirs. Je les passe sous l'eau brûlante, je me lave le visage avec et paf, je me sens infiniment mieux avant d'aller me coucher. Les gants, ils ont coûté peut-être 5 euros. Le passer sous l'eau chaude et me le mettre sur le visage, ça prend 5 minutes. Et d'un seul coup, je me sens infiniment mieux tous les soirs. C'est pas grand-chose et c'est tout à la fois en fait. Ce sont ces petits détails qui rendent la vie plus douce, plus agréables et qui rendent les moments pénibles comme une salle de bain en travaux avec des litiges d'assurance et des machins comme ça, beaucoup plus supportables. Alors après cette première expérience, je me suis demandé dans quels autres domaines suis-je tout aussi inconsciente de mes propres besoins et quels autres petits détails du quotidien pourrais-je changer pour aller mieux dans ma vie personnelle, domestique, créative et professionnelle. Avant d'aller plus loin, un petit rappel. Je produis ce podcast sur mon temps et mes deniers personnels et je tiens à ce qu'il reste sans pub. Vous pouvez me soutenir pour le prix d'un café sur patreon.com/floriteller. Je remercie du fond du cœur celles et ceux qui me soutiennent déjà. Dans quels autres domaines suis-je tout aussi inconsciente de mes propres besoins et quels autres petits détails du quotidien pourrais-je changer pour aller mieux dans ma vie personnelle, domestique, créative et professionnelle? C'est là qu'on en revient à cette société productiviste qui nous a planté les graines, en tout cas moi, qui a planté les graines dans mon imaginaire intérieur, comme quoi je devrais ignorer mes besoins, que je devrais avoir un rendement constant, que je devrais travailler toujours plus, et que je n'ai de valeur en tant qu'être humain que si je suis utile. C'est dans ce genre de vision du monde que j'ai grandi, et je suis en train de prendre conscience du rôle prédominant que ça a joué dans mon ignorance totale de mes propres besoins, dans leur subtilité personnelle, alors que j'ai presque 36 ans. Quand est-ce que je suis la mieux concentrée dans la journée, la semaine, le mois, la saison? Quel rôle jouent les saisons d'ailleurs, mes cycles hormonaux et toutes ces influences naturelles sur ma biologie, sur mes énergies? Qu'est-ce qui me recharge quand je me sens fatiguée mentalement ou émotionnellement? Qu'est-ce qui nourrit mon inspiration, ma créativité? Quels sont mes cycles créatifs? Quel est le type de travail ou d'activité qui me correspond mieux que d'autres? Rien que tout ça, c'est hyper important et on ne se pose pas la question parce qu'on nous sert un modèle social de comment on devrait être, de ce que c'est que la norme, et du coup on se pose pas la question de nos propres besoins personnels. Alors, pour mettre un petit peu de nuance dans le discours, j'ai quand même appris à me connaître au fil des années, et ce serait un petit peu dramatique. Je suis d'humeur dramatique en ce moment, j'en ai marre de cette salle de bain. Ce serait un petit peu dramatique de dire que je ne connais pas du tout mes besoins. Par exemple, j'ai appris que je suis introvertie, et que je travaille beaucoup mieux seule sur ma tâche créative, de manière indépendante, plutôt que de travailler en équipe et d'être interrompue et sollicitée en permanence. Je sais aussi que je travaille le mieux entre 9h et 15h, plutôt que tôt le matin, où c'est trop tôt, faut que je me sorte la tête, ou alors en fin de journée, où j'ai plus du tout d'énergie pour les tâches ni créatives ni intellectuelles. Je sais que j'ai besoin de solitude pour me recharger. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris lorsque j'ai découvert toute cette idée d'introversion et d'extraversion dont on a déjà parlé dans le podcast, et que j'ai découvert grâce à l'autrice Suzanne Cain, C-A-I-N, qui a écrit le livre Quiet, qui a sûrement été traduit en français depuis. Et d'ailleurs, un grand merci à Suzanne Cain d'avoir écrit ce bouquin, parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup, beaucoup de choses sur moi-même. Donc je sais que j'ai besoin de solitude pour me recharger, mais malgré toutes ces prises de conscience progressives au fil des années autour de mon propre fonctionnement, j'ai pris conscience ce mois-ci de tout ce qui me reste encore à apprendre sur moi-même. Que ce soit dans ma vie personnelle, dans mon organisation de travail, dans mes cycles créatifs, toutes ces choses-là. De la même manière que j'ai exploré les subtilités de mon besoin d'hygiène, j'ai décidé de commencer à explorer les subtilités de mes autres besoins. Par exemple, mon besoin de solitude, parlons-en de celui-là. Il a été beaucoup mis à mal depuis l'arrivée du télétravail, où je ne suis plus seule en journée chez moi maintenant. Et il est encore plus mis à mal depuis que j'ai des ouvriers chez moi, et que je dois aller me doucher chez quelqu'un d'autre plusieurs fois par semaine, et donc du coup être en présence d'autres personnes plusieurs fois par semaine, je me suis rendu compte que que mon besoin de solitude était en danger là en ce moment, était vraiment mis à mal. Et du coup j'ai commencé à me demander, ok, besoin de solitude ça veut dire quoi exactement? Parce que ça fait partie de mon introversion. Les introvertis ont davantage besoin de solitude pour se recharger, et les extravertis ont au contraire besoin de contact pour se recharger. Mais je suis sûre qu'il n'y a pas deux introvertis exactement pareils. Nous sommes tous et toutes différents dans notre besoin de solitude et dans la manière de répondre à ce besoin de solitude. Du coup, je me suis posé la question, est-ce que m'enfermer dans une pièce et marquer « ne pas déranger » sur la porte, ça suffit? Combien de temps est-ce qu'il faudrait que je sois seule pour que ça me recharge et qu'ensuite je sois contente de retrouver tout le monde? Quel genre de solitude me recharge le plus? Est-ce que c'est d'être toute seule dans la nature? Est-ce que c'est d'être au contraire dans un café au milieu de la ville avec les bruits alentours, etc.? Est-ce que c'est le fait de marcher, d'aller voir des musées? Ou est-ce que c'est le fait d'être au contraire dans un espèce de cocon tranquille à ne rien faire, etc.? Voyez, il y en a plein des subtilités dans tout ça. Et à partir de là, à partir du moment où j'affine ce qu'il y a derrière ce besoin de solitude, je peux formuler des solutions concrètes et faisables aujourd'hui. Et ça, je peux formuler ces questions-là, ces solutions-là, que si j'ai affiné le problème en premier lieu, voilà. Vous voyez ? Donc là, par exemple, être seul dans une pièce, chez moi, mais avec des ouvriers dans la pièce d'à côté, ça ne marche pas. J'ai besoin d'un certain niveau d'intimité, j'ai besoin de savoir que je ne serai pas dérangée, que personne ne va venir tomber sur moi en train de faire je sais pas quoi. Donc j'ai besoin de l'espèce de désinhibition qu'on a quand on est complètement seul. J'ai besoin d'avoir la possibilité de faire ce que je veux comme je veux à n'importe quelle heure, ne serait-ce que par exemple de décider de manger quand j'ai faim, plutôt que de devoir manger parce que les autres personnes avec qui je suis sont en train de préparer à manger maintenant, vous voyez. Et une fois que je comprends cette subtilité, ben là je peux réfléchir à des solutions. Donc en l'occurrence pour le besoin de solitude, à long terme, l'idéal ce sera d'avoir un atelier d'artiste à part, même si c'est une petite pièce, hein, une chambre de bonne, qui a juste assez de place pour mettre un bureau, un siège, un lavabo et un chariot pour le thé, moi ça me suffira. Mais il faut que ce soit quelque part un endroit séparé, où il n'y a personne d'autre dans les pièces d'à côté, enfin je veux dire ça peut être des voisins, mais je veux dire où il n'y a pas de proches à moi qui sont avec moi sous le même toit, et où je peux faire ce que je veux comme je veux. Ça c'est un exemple. Et j'aurais besoin de ce genre de parenthèse-là au moins une fois dans la semaine, quoi. En attendant d'en avoir la possibilité financière, parce qu'évidemment, hein, y a toujours des moyens de combler ses besoins. Quand on a beaucoup de temps et beaucoup d'argent, on règle beaucoup de problèmes. Hein. Mais en attendant d'avoir la possibilité financière de louer ou d'acheter une chambre de bonne à Paris, hein, c'est pas demain la veille. Maintenant que je comprends ce besoin, je peux trouver d'autres solutions. Par exemple, je peux voir avec mon mari pour qu'il aille à son bureau une journée par semaine pour que je puisse avoir cette petite bulle de solitude chez moi. Je peux peut-être, quand je sens que j'ai vraiment besoin d'être seule, louer un Airbnb ou un gîte pour une seule nuit et passer 24 heures toute seule. Je peux choisir de me faire un mini week-end quelque part toute seule de temps en temps. Ou alors je peux, si des proches me le proposent, emprunter les clés de proches, notamment ceux qui nous prêtent leur douche quand ils sont pas à la maison, pour aller passer une journée de travail seule chez eux, par exemple. Mais vous voyez, avant de réfléchir à ces pistes-là que je viens de vous donner, encore faut-il que je comprenne mon besoin de solitude dans le détail, avec les subtilités qui me sont propres à moi. Alors comment comprendre le besoin en question ? Parce que finalement, la clé de tout ça, c'est de comprendre nos propres besoins. Alors, c'est ce que je suis en train d'explorer en ce moment, mais je peux vous dire qu'en ce qui me concerne, la clé, c'est l'écoute de mes émotions. Une émotion désagréable, c'est un besoin non rempli, et une émotion agréable, c'est un besoin rempli. Quand mon besoin de solitude n'est pas rempli, je remarque que je suis irritable, tout m'insupporte, je m'énerve vite, je suis beaucoup plus fatiguée, beaucoup plus facilement, et je remarque une sorte de lassitude grandissante. Un besoin de faire l'ours dans la grotte, quoi, de me replier sur moi-même. Du coup, j'ai testé. J'ai remarqué que m'enfermer dans mon bureau avec quelqu'un dans la pièce d'à côté, ce n'était pas suffisant. Par contre, j'ai passé une journée chez justement un proche qui n'était pas là, et c'était magique. Dès le soir même, je me sentais mieux. Même si c'est pas exactement aussi bien que d'être chez moi au milieu de mes affaires à moi. Mais c'était déjà efficace. Donc l'idée, ça va être de tester, d'expérimenter, de chercher ces subtilités en restant à l'écoute de mes émotions. À quel moment est-ce que je commence à ressentir des émotions plus agréables ? Du soulagement, de la joie, du plaisir, de l'aise, de la sérénité, etc. Et donc, si vous n'arrivez pas du tout à nommer vos besoins, parce que là j'ai nommé un besoin d'hygiène, j'ai nommé un besoin de solitude, un besoin de confort, de plaisir, de sensualité, de beauté, voilà, j'ai donné des exemples au fil de ce podcast. Si vous ne savez pas du tout comment nommer vos besoins, il y a deux modèles sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Un modèle qui s'appelle la pyramide de Maslow, M-A-S-L-O-W, je vous mettrai les noms écrits de ces deux modèles-là dans les notes de l'émission sur floriteller.com/BN172. Et vous avez donc la pyramide de Maslow, qui est une pyramide des besoins avec 5 niveaux, des besoins les plus fondamentaux aux besoins les plus, entre guillemets, évolués, qui, d'après Maslow, ne peuvent s'exprimer que si les besoins de base sont exprimés. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Mais vous avez déjà une première base avec cette pyramide-là. Et une deuxième structure que je préfère largement, qui s'appelle les 14 besoins fondamentaux, qui sont triés par ordre de survie, on va dire. Genre le premier besoin, c'est respirer, il me semble. Mais qui sont quand même tous fondamentaux, même si ce n'est pas des besoins nécessaires à la survie. Et qui présentent quelques subtilités. Par exemple, il y a justement par exemple, le besoin de se vêtir et de se dévêtir. Donc, il y a un côté besoin d'indépendance, de pouvoir faire soi-même, mais aussi le besoin de choisir les vêtements qu'on porte et de s'exprimer à travers le style. Vous voyez, c'est un des 14 besoins. Il y a quand même un petit peu de précision. Donc, je trouve ce modèle hyper intéressant. Donc, si vous ne savez pas du tout par où commencer, que vous n'arrivez pas à nommer vos besoins, je vous invite à aller voir ces deux modèles-là en tapant sur Google. Hein, vous trouverez des ressources. Ça vous aidera à mettre des noms sur les besoins. Et de la même manière, il existe également des listes d'émotions. Si vous n'arrivez pas à mettre des mots sur vos émotions, vous avez des listes sur Internet qui permettent de mieux définir les émotions qu'on ressent en lisant à travers une liste pour voir laquelle a l'air de mieux correspondre à notre ressenti du moment. Moi, ça m'aide beaucoup les listes d'émotions. Hein. C'est vraiment hyper utile comme ressource. Voilà donc pour cette histoire de comprendre nos besoins. Et donc en ce moment, mon expérimentation personnelle sur le sujet, parce que du coup je vais continuer à explorer mes besoins d'être humain, et en ce moment mon expérimentation se porte sur mon écosystème créatif, c'est-à-dire mes besoins, mes rythmes, etc. en tant qu'artiste. Parce que là aussi, la société productiviste a fait pas mal de dégâts, c'est-à-dire que j'ai du mal à m'autoriser à créer des choses qui n'ont pas vocation à devenir des produits à vendre, parce que j'ai une sensation de perte de temps, alors que ce n'est pas une perte de temps. J'ai du mal à m'autoriser à ne rien créer du tout, soit parce que c'est pas le moment du mois, par exemple, soit parce que j'ai besoin de faire autre chose pour que mes idées se développent, par exemple me reposer, flâner, laisser l'espace aux idées de germer, apprendre, m'inspirer, etc., etc. Et j'ai beaucoup de mal à m'autoriser à tout ça parce que déjà que les métiers créatifs sont vus d'un œil plutôt critique hein, dans la société productiviste, si en plus je ne crée que 2 heures par jour, 2 semaines par mois, parce que je passe le reste du temps créatif à dormir, flâner, voir des expos, lire des livres, griffonner dans un carnet de croquis ou écrire un défou livre avec des mages et des messieurs sexy, et des mages sexy. Imaginez le poids des pensées à déraciner pour ensuite oser m'avouer à moi-même les besoins que j'ai en tant qu'artiste. Parce que c'est ça la difficulté finalement, et je vais terminer là-dessus, c'est que si en tant qu'être humain adulte dans la société moderne, on n'a jamais pris conscience de certains besoins, peut-être que c'est parce qu'on se sent coupable de les avoir. Parce qu'on nous a dit que c'était égoïste et qu'il fallait d'abord penser aux besoins des autres avant les siens. Ça, c'est des choses qu'on a inculquées à beaucoup de femmes, par exemple. Parce que ça paraît farfelu d'avoir ce genre de besoins dans une société extrêmement normée qui nous dit qu'on devrait être comme des machines. Et que du coup, ces besoins ne nous paraissent pas légitimes et que du coup, on ne laisse pas la place à nos propres besoins à l'intérieur de nous. Peut-être même parce qu'on en a honte de certains de nos besoins. Et tout ça, ça crée des barrières qui peuvent être multiples, variées et différentes pour chacun d'entre nous. Ce qui fait que moi, je ne m'autorise pas à ressentir certains besoins et certaines émotions, ce ne sera pas forcément les mêmes éléments que les vôtres. Mais dans tous les cas, c'est un vaste sujet et ça soulève beaucoup de vases dans mon propre imaginaire intérieur en ce moment. C'est un petit peu tourbillonnant. Mais voilà, je pense que c'est une démarche qui est inconfortable parce qu'on touche aux besoins profonds, on touche aux émotions qui sont un sujet inconfortable, on touche à ce qu'on s'autorise ou pas de faire dans la société, donc ça touche à la question de l'estime de soi et de ce qu'on se sent légitime de faire ou de ne pas faire. Donc tout ça, c'est vraiment très inconfortable comme démarche, mais ça vaut vraiment le coup. Parce que si on peut poser quelques limites assez simples, pour se référer à l'épisode précédent sur les attentes et les limites, ou si on peut faire quelques petits arrangements qui nous sont accessibles dès maintenant, comme par exemple acheter un gant et le mettre sous l'eau chaude le soir, si des petits détails comme ça peuvent nous aider à vivre une vie plus sereine, plus respectueuse de notre nature et de notre énergie, imaginez la différence que ça peut faire, petit à petit, sur le long terme, à mesure qu'on apprend à comprendre et honorer nos besoins. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires ou des idées autour de ce sujet, vous pouvez les partager en commentaire sous les notes de l'émission sur floriteller.com/bn172, où vous retrouverez aussi le script de cet épisode en PDF en téléchargement direct. Vous pouvez aussi me contacter via floriteller.com/contact. Et pour des réflexions écrites autour de la créativité, la simplicité et le slow, j'envoie une lettre électronique tous les dimanches matins que vous pouvez recevoir en vous inscrivant sur floriteller.com/lettre. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine !